Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Sarah Gier-Jaco, Caroline Bonin, Clément Salazar, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Dofar Guérid. Nous poursuivons donc notre série consacrée au travail et à la manière dont il convient de le repenser. Nous évoquions hier la question du revenu universel. Nous allons parler ce matin d'agriculture, des agriculteurs aux néo-paysans, travailler la terre.
Allez, viens là, viens.
Ça, c'est un box type dans lequel vous avez 12 taurillons.
Il faut qu'ils puissent bouger, mais dans une certaine limite tout de même. Voilà. Ben, c'est améliorateur pour la croissance. Ils dépensent moins d'énergie. Ils ont tous une place pour se coucher. Moi, ça me convient.
Produire beaucoup, c'est pas... C'est secondaire. Hein. On est encore dans le mythe productiviste qui est encore très ancré dans le monde paysan et dans la société en général, où c'est valorisant de produire beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on produit beaucoup qu'on va dégager un revenu, qu'on va vivre correctement.
On a des cages aménagées. Elles sont équipées de perchoirs, comme vous pouvez le voir ici, sur deux hauteurs. Elle fait 150 cm de large et elle fait 3,10 m de long. Là, il y en a 58 par cage.
Pendant des décennies, l'agriculture s'est développée à des fins mercantiles, pour produire toujours plus, à des coûts toujours plus faibles, sacrifiant la qualité, l'intérêt des consommateurs, sans parler bien sûr du bien-être animal. Pourtant, les limites de cette agriculture, dite intensive, productiviste, sont aujourd'hui bien apparentes. La révolution verte, fondée sur l'utilisation d'engrais chimiques et l'utilisation de variétés sélectionnées pour leur rendement, a montré ses effets les moins reluisants sur le plan environnemental, bien sûr, mais aussi et surtout sur le plan économique et social, entraînant avec elle une baisse spectaculaire du nombre de personnes employées dans l'agriculture. Le monde rural ne cesse d'envoyer des messages d'alerte, le monde paysan est en crise, la plupart de ses agriculteurs au bord du gouffre, étouffés par des normes drastiques et des prix qui ne leur permettent pas de se maintenir et d'envisager sereinement l'avenir. Alors quel avenir pour le travail de la terre? Pourquoi l'agriculture intensive va-t-elle tuer l'emploi? Et peut-on inverser la donne? Comment le phénomène des anciens urbains reconvertis en nouveaux agriculteurs, appelés ces néo-paysans, est-ce que ce phénomène pourra suffire? Jusqu'où peut aller la repaysanisation du monde? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité un ingénieur agronome de formation, c'est Mathieu Calame. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme, le FPH, c'est bien ça?
Le FPH, oui.
Auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment le dernier en date, Comprendre l'agroécologie, origine, principes et politiques, qui est paru aux éditions Charles-Léopold Mayer. Alors d'abord, on va peut-être commencer avec un mot d'actualité. Mathieu Calame, si vous le voulez bien. Le salon de l'agriculture s'est achevé il y a quelques jours et comme à chaque édition, lors des années électorales en particulier, les candidats sont rendus pour distiller quelques éléments de leur vision de ce que doit être l'agriculture française dans le monde d'aujourd'hui. Mais pour beaucoup d'agriculteurs, il y a une sensation quand même qui domine. C'est celle finalement que les politiques se déplacent pour se montrer plus que pour les écouter précisément. Que vous inspire l'utilisation des politiques? Que font ces politiques de cette vitrine du salon de l'agriculture? Est-ce qu'il vous semble que certains ont réellement pris la mesure de la crise du travail qui touche aujourd'hui le monde agricole?
Disons que j'ai l'impression que comme il y a une crise de l'emploi générale au niveau européen, ce qui allait de soi dans les années 70, à savoir que l'agriculture en s'industrialisant allait détruire de l'emploi, est aujourd'hui inacceptable. Donc là, effectivement, il y a un discours sur changer de modèle, notamment par rapport à cette question de l'emploi. Maintenant, il faut quand même rappeler que la politique agricole est une politique européenne. Ça, c'est un fait, c'est un acquis, j'aurais envie de dire, de mon point de vue. Mais après, on pourra en discuter. Et donc, c'est une politique qui se discute avec d'autres.
Alors, effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui ont été proposées par les candidats, aller vers un modèle agroécologique, c'est des choses qu'on a entendues dans la bouche de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon, aller vers une agriculture écologique et paysanne, ça c'était Jean-Luc Mélenchon, franciser la PAC de l'Union européenne du côté de Marine Le Pen, rendre éligible le crédit impôt recherche les exploitations agricoles pour des projets de recherche ou d'expérimentation labellisés, ça c'était pour François Fillon. Emmanuel Macron, lui, veut protéger les agriculteurs contre la volatilité des prix via l'Europe et des outils de régulation. Que vous inspirent toutes ces propositions? Est-ce que certaines vous ont marqué, disons, par leur caractère peut-être novateur et par une certaine justesse quant aux mesures qu'il vous semblerait, en tout cas à vous, convenir aujourd'hui?
Disons qu'à ce moment-là, il faut décliner ce qu'il y a dans les mesures. C'est-à-dire qu'en typiquement, quand on dit il faut aller vers l'agroécologie, qu'est-ce que l'agroécologie? Quels sont les dispositifs qu'on va mettre en place? Il faut préciser que quand l'Europe a fait le choix, et tous les pays européens, il ne s'agit pas de l'Union européenne, là, mais les pays européens, après la Deuxième Guerre mondiale, font le choix d'industrialiser leur agriculture, ils mettent en place des politiques extrêmement vigoureuses. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir une politique aussi vigoureuse? Dans un livre qu'il avait publié aux éditions Jean Jaurès, Monsieur Nallet, qui avait été ministre de l'Agriculture, disait eh ben, si on veut un changement d'agriculture, il va falloir mettre les bouchées doubles. Son livre s'appelait « L'Europe sauvera-t-elle ses paysans ?» ou « Gardera-t-elle ses paysans ?»
C'était en quelle année, ça?
Écoutez, le livre doit dater des débuts des années 2000. D'accord. De toute façon, la réforme de la PAC, en 1969, Mansholt dit qu'il faut réformer la PAC. Il était commissaire à l'agriculture.
Alors qu'elle allait la mettre en place.
Alors que ça faisait 7 ans qu'elle était mise en place. Donc c'est une vieille histoire.
Alors quand on regarde, vous disiez l'industrialisation de l'agriculture a tué l'emploi. Et c'est vrai, en un demi-siècle, le nombre d'agriculteurs a considérablement baissé. En France, par exemple, on est passé de 4 millions en 1963 à moins d'un million aujourd'hui. C'était quasiment 30% de la population active à l'époque, c'est moins de 4% aujourd'hui. Mais en fait, la disparition de l'emploi dans le secteur de l'agriculture, elle est bien antérieure à ce mouvement d'industrialisation de l'agriculture. On la voyait déjà bien avant.
On la voit apparaître dès le 19e siècle, en fait, avec le développement de la société industrielle. On peut même dire, c'est évidemment, comme souvent dans ces cas-là, c'est dans les Pays-Bas et en Grande-Bretagne que va commencer le mouvement. Il est perceptible, je crois, dès le 18e siècle. C'est-à-dire, je crois que le chiffre, c'est qu'au 18e siècle, il n'y a plus qu'un tiers de la population anglaise qui vit de l'agriculture, en fait.
Mais c'est Jean-Jacques Rousseau qui avait noté justement, qui avait pointé du doigt cette diminution progressive du nombre d'agriculteurs. Déjà à l'époque, je ne sais plus si c'est vous ou si c'est sous la plume d'un autre que j'ai lu ça.
C'est Yandou van der Ploeg dans son livre.
Les paysans du 21e siècle.
Exactement.
Je vous en prie.
Oui, donc ce phénomène est perceptible. Il est lié au développement du secteur industriel et du secteur marchand. L'agriculture restant une activité primaire. Alors c'est vrai que dès le XVIIIe siècle, il y a des débats très très forts, même au sein des économistes. On peut dire que même une partie de l'économie naît de cette question agricole. Tout ce qu'on a appelé les physiocrates en France, qui essayent de penser l'agriculture dans des termes économiques. On peut dire qu'avant, des gens comme Colbert pensent l'agriculture comme quelque chose de naturel. Il y a une masse de sujets qui sont agricoles, qui sont paysans, enfin je sais pas comment les qualifier, qui sont la masse des sujets. Le pouvoir royal va tirer du revenu de ces paysans, de cette masse paysanne, et il va mener une politique économique dans les secteurs que sont le grand commerce, créer les compagnies des Indes, ou dans la production de produits manufacturiers. Et c'est au XVIIIe siècle qui commence à avoir un certain nombre de gens qui disent il faut aussi penser l'économie agricole. On peut pas juste en faire une sorte d'espace de prédation. Alors, en fait, je caricature un petit peu, hein, puisque Olivier de Serres, qui est un des pères de l'agronomie, écrit au début du XVIIe siècle un livre où il dit l'importance de l'agriculture. Mais enfin, il va falloir beaucoup de temps avant que la puissance publique mette en place des politiques agricoles.
Alors, on a compris que quand il y a eu ce mouvement d'industrialisation de l'agriculture, ça a tué de l'emploi. À l'époque, c'était pas un problème, puisque de toute façon, on créait de l'emploi ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, c'est évidemment plus le cas. Je vous posais une question extrêmement naïve. Si, précisément, l'industrialisation de l'agriculture n'a plus de sens aujourd'hui, notamment quand on regarde ces nombreux effets néfastes que j'ai évoqués tout à l'heure dans mon introduction, et que par ailleurs, elle continue de faire disparaître de l'emploi, pourquoi est-ce qu'on poursuit aujourd'hui?
Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de quitter une habitude, et vous avez un certain nombre aussi d'intérêts constitués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie sans acteurs, et tout changement de système économique va changer les rapports de force et les hiérarchies au sein des acteurs. Donc, je dirais que globalement, autour de l'activité agricole, c'est constitué un aval et un amont très puissant. En amont, vous avez l'explosion de toute l'agrochimie, avez les tracteurs, vous avez le crédit agricole, etc. Et puis en aval, vous avez la grande transformation, la grande distribution, et quelque part, c'est cohérent. Vous avez une agriculture industrielle qui s'est industrialisée dans un paradigme qui est l'industrialisation de l'alimentation en général. Si vous dites il faut une nouvelle agriculture qui crée plus d'emplois sur les territoires, qui soit moins intensive en capitaux et plus intensive en travail, qui consomme moins d'intrants, vous n'allez pas nécessairement faire plaisir à ceux qui prêtent de l'argent aux agriculteurs, à ceux qui vendent des intrants. Donc l'agriculture n'est jamais tout nu.
On va faire plaisir quand même aux agriculteurs eux-mêmes. Difficile de changer les habitudes, très bien, mais on sait bien que l'agriculture française et l'agriculture mondiale en réalité est dans une crise majeure. Les agriculteurs le savent, ils ont pris conscience de ça. Ils ont pris conscience aussi du fait qu'il faut changer de modèle.
Je pense qu'il y a des familles différentes au sein du monde agricole. Il y a ceux qui, effectivement, sont peut-être de plus en plus nombreux, qui comprennent qu'il faut changer de modèle. Mais il y a toute une partie de ceux pour lesquels l'industrialisation reste l'horizon qu'ils veulent atteindre. Donc eux, ce qu'ils souhaitent, c'est grossir pour obtenir une taille critique pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée dans la filière. Et grossir, c'est quoi ? C'est absorber quelques voisins.
Et ça s'explique notamment parce qu'il fut un temps où cette révolution verte, elle a enrichi certains agriculteurs. Et on a évidemment encore ce souvenir.
Cette révolution verte, elle a enrichi un certain nombre d'agriculteurs, ceux qui ont absorbé les autres, en fait. Mmh. En gros, on peut dire que tous les ans, il y a une sorte d'érosion où les plus petits partent. Si vous voulez, par exemple, qui sont les descendants des petits agriculteurs ? C'est les citadins, si je veux caricaturer. C'est eux qui sont partis les premiers. La plupart d'entre nous, nous avons des histoires familiales. Si on revient à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? Les plus pauvres des paysans. Et chaque génération fait partir les plus pauvres. Parce qu'il y a une concentration du capital, tout simplement. Enfin, là, j'ai pas besoin de faire de la littérature là-dessus. Alors, ce qui se passe, c'est que chaque agriculteur... Ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que chaque agriculteur, quand il voit partir son voisin, il dit, ben, c'est la fatalité, c'est la nécessité. Quand c'est son tour de partir, il hurle en disant, c'est terrible. Mais en fait, il est lui-même, finalement, le produit de l'élimination de tas de paysans avant.
Depuis une dizaine de minutes qu'on a commencé notre échange, Mathieu Calame, on utilise soit le terme agriculteur, soit le terme paysan. Et dans votre ouvrage « Comprendre l'agroécologie », vous avez justement un chapitre intitulé « Néo-paysan et néo-consommateur », et dans lequel vous revenez justement sur ce thème paysan, un peu tombé en désuétude, particulièrement avec la révolution industrielle dans la deuxième moitié du 19e, et vous dites que avec les mouvements d'industrialisation de l'agriculture, ce terme d'agriculteur va progressivement s'imposer, et puis peu à peu, sur la période un peu plus récente, le terme paysan va revenir sur le devant de la scène, au point justement d'inventer ce nouveau terme qu'est le néo-paysan. À quel moment est-ce qu'on a ce retour, et qu'est-ce qu'il vous semble révéler justement de la crise de la terre qu'il y a derrière.
Alors, des mouvements de retour à la terre, on en a dès les années 60, des années 70 et même avant. Ceux qui sont allés voir Jean de Florette ont par exemple une sorte de fable autour d'un retour à la terre. Donc, ça c'est bien antérieur aux années. Je crois qu'il y a des mouvements permanents. C'est-à-dire que peut-être qu'on va préciser d'abord le fait que le terme paysan, il peut avoir des acceptions différentes selon la personne qui l'utilise. Donc mon propos n'est pas de dire les gens ne devraient pas utiliser le terme de paysan, mais si on s'inscrit dans la sociologie typiquement de celle de Mandras, on va dire en fait il y a des sociétés paysannes et celles-là ont disparu. Mais dans ces sociétés paysannes, les personnes ne se nommaient pas elles-mêmes paysans. C'est des sociétés d'ailleurs assez hiérarchisées où, selon la quantité de terre qu'on avait, on n'était pas considéré de la même manière. Et c'était pas des sociétés nécessairement égalitaires. J'ai presque envie de dire, en fait, le terme de paysan devient très populaire quand le nombre des gens qui travaillent la terre diminue. Quand vous êtes dans une société où 80% des gens travaillent la terre, on n'est pas paysan. D'ailleurs, dans son livre sur la révolution russe, Orlando Figes fait remarquer qu'on interrogeait au début du XXe siècle les Ukrainiens sur le mot paysan, et le mot ukrainien et le mot paysan étaient synonymes. Ça désignait l'homme de la campagne par rapport aux Juifs et aux Polonais qui étaient dans les villes.
Mais expliquez-nous, Mathieu Calame, quelle différence vous établissez entre le terme agriculteur et le terme paysans. Parce que derrière tout ça, en réalité, c'est pas seulement une question de mots, c'est tout un système, économique, un système de valeurs aussi, système de solidarité.
J'ai fait cette introduction un peu longue pour expliquer que le terme de paysan était compliqué. Le terme d'agriculteur, lui, est plus précis, effectivement. On peut dire qu'il correspond à l'envie très forte dans les années 50 et notamment portée par la JAC de sortir d'une société qui était essentiellement patrilinéaire.
La jeunesse agricole communiste.
La jeunesse agricole catholique.
Catholique, pardon.
Catholique.
Autant pour moi.
mais qui fait, avec les communistes, c'est les deux grands mouvements d'éducation populaire, en fait. Il y a les communistes et les catholiques qui font de l'éducation populaire, mais effectivement, le monde paysan est idéologiquement plus proche du monde catholique que du monde communiste. Et donc, le monde catholique va être porteuse de l'idée que c'est quoi l'avenir ? C'est un couple sur une ferme. C'est important de le dire parce que c'est une révolution aussi dans les rapports entre les générations, entre les rapports hommes-femmes. C'est-à-dire que c'est plus le père et le fils qui sont le cœur, enfin exactement les aînés, parce que beaucoup de
comme
sociétés...
Comme ça se passait dans le monde paysan, dans les sociétés paysannes.
Dans les sociétés agraires et paysano-agraires, on va dire ça comme ça, c'est souvent le lignage masculin qui l'emporte. L'individu n'existe pas, hein. On n'est que celui par lequel se transmet la terre. Je caricature un peu, c'est un peu violent ce que je dis, mais on voit bien que c'est ça qui compte. Dans la JAC, c'est le couple, et on insiste sur le fait paysan n'est pas un état, on ne naît pas, on ne meurt pas paysan, c'est une profession qui est choisie, qui va être d'ailleurs sanctionnée par des études, c'est là qu'on met en place, qu'on accélère la mise en place d'un enseignement agricole dont on a les prodromes au 19e siècle, et quelque part c'est le modèle de l'artisan finalement, c'est le modèle du couple de boucher ou du couple de fromager qu'on applique tout d'un coup avec l'idée de fonds de commerce. Et ça, le point important qui distingue radicalement le paysan de l'agriculteur, c'est le rapport à l'endettement. Un paysan ne s'endette pas pour investir. L'agriculteur va distinguer ses biens familiaux des biens de l'entreprise. Et on a une très forte progression des formes sociales, EARL, etc. Et ce qui s'endette, c'est pas la famille, c'est l'entreprise. Et l'endettement ne devient plus une tare. Dans la société paysanne, l'endettement était souvent le fait de gens qui n'ont pas les moyens, qui vont s'endetter souvent à des taux usuraires d'ailleurs, et donc il n'y a pas l'idée de s'endetter pour investir. Les agriculteurs, c'est l'idée que on va s'endetter pour investir.
Ceci dit, on entend de plus en plus d'agriculteurs revendiquer le fait qu'ils sont aussi des paysans. Et peut-être que ce que vous nous disiez justement à propos de la dette est central dans cette ambition-là, ce désir-là d'être finalement qualifié d'abord et avant tout de paysan et pas d'agriculteur. Parce que l'une des choses qui choque beaucoup les agriculteurs, c'est la perte de leur autonomie, en réalité. Ce qu'on entend beaucoup, l'autonomie par rapport aux banques, par rapport aux semenciers, par rapport à la grande distribution, et peut-être que justement, ce retour du terme paysan, c'est l'espoir d'une reconquête de cette autonomie perdue.
Complètement. C'est une évidence, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans le mouvement des néo-paysans, c'est souvent d'ailleurs des gens, quand ils viennent de l'espace urbain, qui avaient des métiers parfois très bien payés, qui vont vers un métier moins payé, mais dans lequel ils se sentent libres. Ils sont à la recherche de l'autonomie. Alors, l'autonomie n'est pas l'autarcie. Simplement, ils vont constituer de nouvelles solidarités avec des consommateurs, avec le territoire. L'autonomie qu'ils cherchent, par contre, c'est l'autonomie vis-à-vis, effectivement, du système bancaire et justement de ce système de surendettement qui est au cœur de la crise actuelle, hein, dans lequel, finalement, vous travaillez essentiellement pour rembourser vos dettes d'investissement. Et comme tout le monde investit, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez surproduction et les prix baissent et vous avez la crise actuelle.
Expliquez-nous qui sont justement ces néo-paysans et quelles sont les logiques qui les ont poussés vers leur nouvelle activité.
Alors, ils sont très divers. Il y a un très joli livre de Lucille Leclerc qu'elle a écrit avec quelqu'un d'autre sur les néo-paysans qui fait des portraits. Donc c'est intéressant, il y a une série de portraits, puisque compte tenu de leur diversité, c'est très difficile de faire un archétype. Mais ce qu'on peut constater, c'est que ce qui est important, c'est que c'est souvent des gens qui s'installent hors cadre familial, c'est-à-dire que leurs parents ne sont pas agriculteurs. Eux-mêmes vont être dans une démarche dans laquelle ils sont en rupture, souvent avec des professions qui étaient relativement rentables. C'est des gens qui ont un niveau d'éducation élevé, par rapport au, alors après, éducation ne fait pas culture. Les sociétés paysannes avaient une culture. Mais disons, selon nos standards, je dirais, de l'éducation nationale, ils ont en général des niveaux assez élevés. Ils ont en général un capital quand même de départ, mais pas seulement un capital financier, ils ont souvent un capital social. C'est-à-dire que, et ils savent réfléchir en termes de réseau, ils savent l'importance de, parce qu'on parlait de liberté, on est toujours dépendant dans une société, sauf si vous êtes Robinson Crusoe, là, vous pouvez vous retirer sur une montagne désolée et essayer de vivre en autarcie. Les néo-paysans ne sont pas du tout dans ce cadre-là. Simplement, leur solidarité vont se faire avec les consommateurs. Ce qui sont souvent les gens qui vont aussi accepter d'investir. On a ce phénomène assez intéressant de consommateurs responsables qui sont aussi investisseurs. Typiquement, c'est Terre de Liens, par exemple. Les gens qui sont à Terre de Liens vont aussi être ceux qui vont acheter dans les biocoop, voire qui vont aller sur rechercher des systèmes de vente directe. Donc, on a une sociologie et une organisation de l'économie très différente.
Je reviens sur les motivations. Qu'est-ce qui les pousse à se lancer dans le travail de la terre? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été particulièrement sensibles aux questions environnementales? Est-ce que c'est les questions d'équité sociale qui les préoccupent? Est-ce que c'est la question de la préservation de la vitalité de territoires qui sont en train de se mourir parce que les gens en partent? Qu'est-ce qui les motive finalement?
Je pense que la première motivation, c'est probablement l'insatisfaction de ce qu'ils font là où ils sont. C'est-à-dire que cette espèce d'atomisation du travail où chacun d'entre nous fait une fonction, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture qui a été industrialisée, c'est l'ensemble du monde. L'industrialisation, c'est une conception de la manière dont on s'organise. Donc chacun d'entre nous est atomisé, fait une toute petite partie d'un travail. Alors il y a des gens qui ont la chance de pouvoir faire quand même un travail épanouissant, hein. Mais globalement, il y a énormément de gens qui, à un moment, sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire dans leur carrière professionnelle et s'interrogent sur le sens de ce que ça a. Parce que finalement, ils ne voient jamais la réalisation finale ou ils n'arrivent pas à projeter leur identité sur ce qu'ils font. Quand vous êtes dans une immense boîte, vous êtes juste un élément de cette gigantesque structure. Et souvent, il y a ce désir d'autonomie.
Donc, le premier moteur, c'est la crise individuelle, finalement.
Oui, et la recherche d'une autonomie, exactement. Mmh. La recherche d'une autonomie individuelle comme moyen de se réaliser en tant qu'individu. C'est un peu le paradoxe de nos sociétés, c'est qu'on est à la fois hyper dépendant et hyper individualiste. Et donc, on a l'impression d'être très libre, mais en fait, pour la plupart de nos fonctions, on dépend de tout un système. Et je crois que c'est ça à la base. Et après, se greffe dessus, probablement alors là, je peux pas parler de tous, mais très clairement, on voit une correspondance avec une sensibilité à la question de la solidarité internationale, avec la nécessité d'avoir des territoires humains, des espaces de vie à taille humaine. Il y a tous aussi cette angoisse des mégalopoles, etc. Et puis la question environnementale, l'idée qu'on développe son être, mais en relation avec d'autres, et des relations qui sont choisies, qui ne sont pas des relations imposées.
Oui, donc il y a plusieurs courants dans tout ça. On va évoquer dans quelques instants justement ce lien, ce nouveau lien entre producteurs, paysans et puis consommateurs. Mais d'abord, sur le potentiel de cette néo-paysannerie. On disait tout à l'heure, l'industrialisation de l'agriculture a tué énormément d'emplois. Concrètement, ce retour des urbains à la terre, parce qu'il s'agit d'un retour finalement, ça peut permettre quoi en termes d'emploi? Quelles sont les perspectives?
Alors,
est-ce que ça va rester marginal ou est-ce que c'est un outil, un moyen, un phénomène par lequel on pourrait réellement répondre à la crise agricole?
L'avenir le dira. Je ferai le pari que c'est possible. La différence qu'il y a, c'est que l'industrialisation, il y a une planification par l'État. Et donc, il y a eu beaucoup de prospectives qui ont été faites dessus. La question du potentiel de la néo-paysannerie, je ne peux qu'inviter effectivement les pouvoirs publics à s'y intéresser et à essayer de réfléchir ce que ça ferait au niveau macroéconomique. Je dispose pas, si vous voulez, de l'appareil de statistiques de l'INSEE, etc. Mais ce qu'on voit, ce qu'on peut dire de manière très certaine, c'est que ce mouvement, dont on peut quand même voir les prémices dès les années 70, cette crise du sens de la société industrielle, il y a tout ce premier mouvement des néo-ruraux, dont à la fois il y a eu un très fort taux d'échec, mais parce que les conditions en général d'engagement étaient complexes, et en même temps il y en a certains qu'on réussit. Et c'est souvent dans ces territoires un peu marginalisés dans lesquels ces gens ont réussi qu'on trouve d'ailleurs actuellement des dynamiques territoriales les plus dynamiques. Et donc, après, toute la question qui va se poser, c'est comment la puissance publique, notamment à l'échelon municipal et régional, voit ce vivier d'emploi, pense ce potentiel d'emploi, comment il libère du foncier pour ça, comment il accompagne éventuellement
souvent. Et là, de ce point de vue-là, vous avez des initiatives qui vous semblent être concluantes, intéressantes, notables? La puissance publique arrive justement à entraîner, à favoriser ce phénomène?
Bon, prenons l'exemple de l'accès au foncier. Qui est une vieille question très traitée par une organisation qui s'appelle Terre de Liens. Terre de Liens a passé a eu l'appui de régions, a même travaillé maintenant étroitement avec les SAFER. Au début, ça se voyait un peu comme concurrent, mais il y a des endroits où les liens ont été faits et sont cordiaux et efficaces. L'exemple qu'on entendait la semaine dernière sur France Culture à Biovallée, l'émission du matin, Biovallée, c'est un projet qui a été soutenu par la région Rhône-Alpes, avec l'idée justement qu'il pouvait y avoir un territoire dans lequel on innovait de manière sociale. Très souvent, c'est une innovation qui est sociale plus que technologique. Ça, c'est aussi, si vous voulez, les gens qui veulent sauver l'agriculture actuelle de ses problèmes se divisent en deux parties. Ceux qui pensent que le salut viendra par une augmentation de la taille et l'innovation technologique, et ceux qui misent plus sur l'innovation sociale. Et si les pouvoirs publics commencent à se dire, oui, finalement, ce dont on a besoin, c'est plus d'innovation sociale que d'innovation technologique, à ce moment-là, ils vont mettre en place des dispositifs pour former, par exemple, pour accompagner. Alors, souvent, en fait, ce que font les pouvoirs publics, c'est qu'ils vont... Ils misent sur les deux et surtout, ils vont accompagner des acteurs de la société civile. Pour l'instant, ils n'en sont pas... Mais on a vu la même chose pour l'industrialisation de l'agriculture. Le moment où l'État met en place des politiques industrielles, il y a déjà eu des tas de mouvements en faveur de cette industrialisation dans le monde économique et de la société civile. Donc, un État est rarement, en fait, innovant. Il va généraliser... une dynamique. Mais on va prendre un exemple pour juste illustrer ça. En 2015, il y a eu l'exposition universelle de Milan et il y a eu un pacte de Milan qui a été signé entre des grandes villes à l'initiative de Milan, Paris, Montpellier, Bordeaux, je crois en font partie, disant oui, nous, en tant que municipalité, nous sentons une responsabilité à aller vers des systèmes alimentaires durables.
Mathieu Calam, venons-en peut-être au lien entre paysans et consommateurs que j'évoquais tout à l'heure, parce que on parlait d'innovation sociale, en voilà une. Un peu partout dans le monde, on a vu apparaître des systèmes de solidarité par lesquels les paysans et les consommateurs se sont rapprochés. C'est ce qu'on appelle souvent les circuits courts. Alors en France, on parle souvent d'AMAP, mais on a ce genre de choses un peu partout dans le monde. En réalité, au Japon, ça s'appelle le Teikei, le Reciproco au Portugal. Quelle est l'ampleur aujourd'hui de ce phénomène? Est-ce que ça reste marginal dans le système alimentaire contemporain ou est-ce que ça commence véritablement à peser?
Alors, au Japon, ça n'a jamais été marginal. Le Japon est le pays par excellence où, pour mille et une raisons, ce système s'est mis en place. Je crois que c'est 3 millions de familles qui sont dans les Teikei. Donc, les Japon, ça n'a jamais été marginal. En France, alors, encore une fois, comme ça n'a pas été le modèle choisi ni soutenu, pour l'instant, je dirais qu'en pourcentage, alors j'ai pas de chiffres, mais je pense que ce serait encore très, très marginal. Rien à voir avec les Teikei. Mais le fait que ça existe si fortement dans une société comme le Japon, des mondes que c'est tout à fait possible que c'est des dimensions qui ne soient pas du tout marginales. Et c'est, encore une fois, c'est des choses qu'on voit en croissance.
Surtout que du côté du Japon, c'est vu effectivement d'abord du point de vue social. C'est là pour créer du lien avant d'être
exactement
là pour être rentable économiquement.
Les Japonais sont très patriotes. Et ils aiment beaucoup leur territoire d'origine. Ça, c'est une dimension essentielle. Ces systèmes fonctionnent souvent sur un attachement qui reste très très fort au territoire, à une communauté. L'idée de communauté reste très forte.
Repenser le travail, c'est notre série cette semaine dans Culture Monde. Aujourd'hui, de l'agriculteur exploitant au néo-paysan, travailler la terre. Mathieu Calam est notre invité.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Mathieu Calam, on va prendre la direction de la Suède, qui est dans le peloton de tête des pays produisant du bio en termes de surface relative. Je crois que c'est 15% de surface agricole utile. On va retrouver Camille Auchedet, qui est géographe, qui est maître de conférence à l'université de Poitiers. Vous vous intéressez, Camille Auchedet, aux relations ville-campagne, en particulier par le prisme de l'agriculture. Vous avez réalisé une thèse sur les réseaux de distribution de produits bio dans la ville de Stockholm. Alors d'abord, un mot sur le bio, parce qu'en Suède, on a 4 personnes sur 5 qui déclarent consommer régulièrement, très régulièrement, du bio. C'est l'un des plus gros consommateurs de bio en Europe. Comment expliquer ce succès? Est-ce que c'est le résultat d'une politique publique volontariste? Et si c'est le cas, à quand est-ce qu'elle remonte?
Effectivement, la Suède, c'est un gros pays consommateur de produits bio avec le Danemark. C'est l'un des tout premiers en Europe. Ça s'explique, à mon sens, par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est une éducation à l'environnement qui est très efficace et qui concerne les jeunes Suédois dès qu'ils vont à la crèche. Le deuxième facteur, c'est effectivement le rôle des politiques publiques et notamment tout ce qui se développe en France aujourd'hui s'est développé bien plus tôt que chez nous en Suède, et je pense notamment à l'approvisionnement des cantines scolaires en produits biologiques.
Je voudrais qu'on parle à présent de la question des circuits courts. Alors nous, évidemment, en France, on pense aux AMAP, aux associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui est ce partenariat, disons, de proximité avec, entre un groupe de consommateurs et puis des exploitations agricoles locales. C'est quelque chose qui s'est pas mal développé en France. Je voudrais comprendre comment ça fonctionne en Suède, parce que je crois que c'est un tout petit peu différent comme système de partenariat. Vous dites qu'il est plus pertinent d'avoir une approche en réseau d'agriculteurs plutôt qu'une approche en termes de circuit court. Alors je voudrais que vous nous expliquiez justement la différence et comment fonctionne justement, disons, ce système de partenariat entre d'un côté des producteurs et puis de l'autre les consommateurs.
D'abord, hein, avant d'expliquer, le système d'AMAP est très peu développé en Suède et il faut prendre en compte dans tout ce renouvellement des liens ville-campagne et des circuits courts, également d'autres formes de circuits courts comme les marchés de producteurs qui sont en développement, mais aussi des fondations qui livrent des paniers de fruits et légumes bio sans que ce soit sur une base associative. Du coup, c'est quelque chose qui est assez nouveau en Suède, mais qui est moins développé qu'en France, toutefois parce que l'agriculture, elle est moins développée aussi à l'orée, un peu plus à l'orée des grandes villes. Mais les AMAP, quand elles existent, c'est un peu la même forme que chez nous. C'est-à-dire que c'est sur la base associative et c'est un groupement de consommateurs qui s'allie avec un ou plusieurs producteurs, souvent plusieurs producteurs, pour avoir une gamme et des volumes suffisamment étendus à proposer aux consommateurs. En France, on est habitué à avoir un agriculteur assez proche de chez nous, et puis aussi à avoir une définition de la qualité agroalimentaire qui est en lien avec un territoire ou avec une ferme. En Suède, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la qualité, elle se base sur des normes d'hygiène, le respect de normes sanitaires. Et du coup, les AMAP, c'est quelque chose de très nouveau et qui amène à redéfinir la qualité des produits alimentaires sur une base géographique, en lien avec une origine. D'où le fait que c'en est encore à ses balbutiements en Suède.
En revanche, je crois qu'il y a quelque chose qui existe et qui existe depuis un petit moment maintenant en Suède. C'est les marchés de producteurs ou même carrément la vente directe à la ferme.
Oui, ils existaient depuis longtemps et puis ça a disparu après la Seconde Guerre mondiale. Et puis c'est en train de réapparaître sous la forme de nouveaux collectifs qui se constituent et notamment des associations de producteurs qui se réunissent pour proposer des marchés en saison. Parce que compte tenu de la saison végétative qui est assez courte en Suède, ces marchés ils n'existent pas tout le temps. Donc c'est surtout au printemps et puis à l'automne que ces marchés existent, notamment sous l'égide d'une association qui s'appelle Bundens Egenmarknad, qui veut dire les marchés de producteurs par eux-mêmes et qui se développent dans à peu près une vingtaine de villes en Suède. Donc à Stockholm, il y a deux lieux de marché. Il y en a dans les plus grandes villes en Suède, Göteborg, Malmö, Uppsala, et puis aussi dans des villes un peu plus modestes.
Et donc c'est les agriculteurs qui se déplacent jusqu'à ces villes pour créer leur propre point de vente.
La règle, c'est qu'un producteur doit être localisé dans un rayon de 250 km par rapport au lieu de vente, donc par rapport à la ville de marché. 250 km, est-ce que c'est réellement proche? Est-ce que c'est réellement local? Ça s'explique par le fait que les marchés ont parfois du mal à trouver des producteurs et que compte tenu de la faible densité aussi de l'agriculture autour des villes, on est obligé de repousser un peu plus loin la limite. Et puis ça s'explique aussi par le fait que ces marchés le premier marché a eu lieu à Stockholm. Stockholm qui est une ville assez densément urbanisée, et donc il faut aller un petit peu plus loin avant de trouver des agriculteurs, ce qui explique ce rayon assez lâche.
Camille Ossedé, quel est le type de structure agricole qui se tourne vers ces solutions de circuit court et quel est le profil de ces agriculteurs, de ces paysans?
Il y a plusieurs types de profils. Il y a des agriculteurs qui sont installés depuis longtemps, qui se sont convertis au bio ou qui se sont directement installés au bio et qui vivent de leur agriculture comme n'importe quel agriculteur. Mais il y a aussi de plus en plus des agriculteurs qui sont un peu des néophytes dans l'agriculture, c'est-à-dire que c'est ce qu'on qualifie...
C'est les néo-paysans.
Voilà, ce sont les néo-paysans, donc les installations hors cadre familial, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas dans leur famille d'agriculteurs, qui sont généralement issues d'un milieu urbain, qui ont fait des études assez poussées dans le domaine de l'environnement ou pas, hein, et qui décident de se lancer dans l'agriculture aussi pour mener à bien leur projet de vie qui est de vivre à la campagne. Donc, la moitié des agriculteurs que j'ai pu interroger dans le cadre de ma thèse autour de Stockholm et qui appartenaient à ces réseaux d'agriculteurs qui vendaient en circuit court, la moitié étaient ces personnes qui étaient issues du monde urbain et qui ont souvent un autre métier parallèlement à l'agriculture, c'est-à-dire que l'agriculture n'est pas exercée à plein temps. Et donc, pour eux, se tourner vers les circuits courts, c'est quelque chose qui est extrêmement rémunérateur puisque ça leur permet de tirer le maximum de bénéfices en supprimant les intermédiaires et donc de pouvoir vivre de cette agriculture en ne faisant pas beaucoup d'investissements sur leur exploitation.
Vivre sur leur production et en même temps, vous dites vous-même qu'ils ont souvent un autre métier à côté. Donc, c'est difficile. Oui. Ça veut dire que c'est difficile de vivre seulement de ça quand même.
C'est difficile parce que ça nécessite des investissements très importants que ces gens n'ont pas puisque ce sont des installations hors cadre familial, donc ils n'ont aucun patrimoine et capital foncier ou technique ou de machine, etc. En même temps, ce sont des débouchés qui sont très rémunérateurs. Et en même temps, l'agriculture, c'est difficile de dire s'ils peuvent en vivre ou pas parce que c'est pas toujours considéré comme un métier, mais aussi comme un loisir ou une passion. Donc la recherche des revenus n'est pas prioritaire.
Est-ce que ces nouvelles initiatives, ces circuits courts, ces rapprochements entre producteurs et consommateurs, est-ce qu'ils ont été initiés, planifiés, organisés par l'État ou est-ce qu'il s'agit seulement d'innovations, disons, venues de la société civile, du bas en l'occurrence?
J'aurais plutôt tendance à répondre par la deuxième alternative, c'est-à-dire que ce sont essentiellement des initiatives qui émanent des agriculteurs et des agriculteurs eux-mêmes, alors que dans d'autres pays, notamment la France, on sait que les AMAP souvent émanent à l'initiative d'un groupement de consommateurs. Donc là, ce qui est original en Suède, c'est que ça émane des producteurs eux-mêmes qui se regroupent pour pallier un certain nombre de problèmes liés à l'organisation du marché qui est très dominé par la grande distribution et quelques groupes de grande distribution seulement. Alors, le rôle de l'État là-dedans, c'est un peu via la PAC et l'Union européenne, c'est-à-dire que l'État a un plan de développement rural comme tous les pays de l'Union européenne et qu'il peut donner des aides au titre de l'agriculture biologique, la conversion à l'agriculture biologique par exemple, mais par contre pas vraiment sur les modes de commercialisation. Par contre, l'échelle qui joue un rôle relativement important, ce sont les communes en Suède qui ont plus de compétences que nos communes françaises parce qu'elles sont moins nombreuses, elles gèrent un territoire bien plus vaste que nos communes, l'équivalent d'un canton, et donc elles peuvent agir sur l'agriculture à travers les paysages ou à travers l'action sur l'environnement, à travers la question de l'approvisionnement des cantines et de la restauration collective, et donc les communes peuvent soutenir ces démarches également en aménageant un espace pour tenir un marché ou en soutenant ces producteurs, en facilitant leurs démarches pour développer ce genre de commercialisation.
Donc d'abord des initiatives venues de la société civile et puis ensuite la puissance publique qui essaye de les soutenir. Merci Camille Auchedet d'avoir été avec nous. Je rappelle, géographe et maître de conférence à l'Université de Poitiers. Mathieu Calame, que vous inspire cet exemple suédois?
Bon, écoutez, je vais un peu rougir, mais il faudrait que Yuna Shifolo de l'INRA soit là. C'est vraiment elle qui travaille sur ces questions. Et donc, j'invite...
Pas de pudeur, vous connaissez ce sujet. Allez-y.
Voilà. Alors, en fait, cet exemple suédois rejoint des choses qui, par contre, existent depuis très longtemps en France. C'est-à-dire que les producteurs qui s'unissent pour faire des marchés, qui font de la vente à la ferme, etc., est un mouvement puissant. Tout à l'heure, vous m'aviez interrogé sur la question des coopératives de consommateurs. Je disais, les AMAP, c'est relativement nouveau. Et ça reste encore marginal en volume. Ça, les ventes directes sont beaucoup plus importante. Je pense qu'on doit être de l'ordre de 15% qui doit être vendu maintenant en direct, mais là encore une fois, il faudrait vérifier ces chiffres-là, j'aurais dû les vérifier avant de venir. Donc je crois que ça c'est le point le plus important, c'est de dire que ce mouvement se renforce, que ce qui a été évoqué aussi, je crois, dans l'intervention précédente est la notion de pluriactivité, ce qui ça aussi est quelque chose qui était très tabou pour le coup en France jusqu'à présent, mais qui est de plus en plus reconnu. Et que ça crée comme ça toute une série de modèles intermédiaires. C'est qu'au fond, on n'a plus une sorte de modèle unique, canonique, un couple sur une ferme. On a toute une diversité de modèles qui se déclinent. Donc, effectivement, pour le point aussi très important du rôle des communes, je pense que les communes françaises, en général, même si je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur le problème qui est de la taille des communes, mais enfin là, on va pas rentrer dans la réforme territoriale, mais je pense que les communes françaises ont beaucoup fait pour maintenir les marchés en plein vent. Les marchés en plein vent ne sont pas nécessairement des marchés de producteurs, mais il y a une tendance maintenant à essayer de bien identifier entre des revendeurs et des producteurs. Ça, c'est un mouvement général. Je crois également que la caractéristique de la France par rapport à ce qui a été dit sur la Suède, c'est la question du terroir qui reste très très forte. Alors d'ailleurs, qui joue pas forcément en faveur nécessairement de l'environnement. Hein. C'est pas parce qu'un producteur est local et qui travaille proprement.
Oui, parce que ça c'est une vraie question que celle du gain écologique environnemental réel. Apporté par ces fameux circuits courts.
Disons que maintenant, les consommateurs, eux, veulent tout. Ils veulent le produit social et écologique. Et ils n'ont pas toujours forcément à disposition. Mais la logique de Terre de Liens, ça a répondu aussi à la nécessité d'installer des gens, parce qu'il y a finalement plus de demandes qu'il n'y avait d'offres.
Encore une toute petite question, Mathieu Calam, avant de prendre la direction de l'Espagne. Comment accélérer encore ces dynamiques de circuits courts? Est-ce que l'État peut encore favoriser les choses, sachant qu'en réalité, l'État défend les intérêts des acteurs de l'industrie agroalimentaire et de la finance? Il n'y a pas aucune prise de parti par là, mais tout simplement parce que c'est le modèle dominant. Et que, vous le disiez tout à l'heure, on défend les intérêts du modèle dominant.
Disons que surtout au niveau européen, on a fait un marché unique.
Oui,
et il y a le gros, le point de blocage, c'est la question de est-ce que la préférence locale est une contradictoire avec le marché unique. C'est pour ça que des candidats comme par exemple Arnaud Montebourg avaient parlé d'importer en Europe le Small Business Act, qui est le dispositif américain qui permet de privilégier, typiquement dans l'offre pour la restauration collective, des producteurs locaux.
Les petites entreprises, parce que ça fonctionne au-delà
d'une secteur agricole. Effectivement, l'Europe pourrait bien avoir un Small Business Act.
Oui, beaucoup le demandent depuis très longtemps. On va prendre la direction de l'Espagne, de Huelva en particulier, une ville du sud-ouest de l'Espagne, en Andalousie, où vivent quelques 150 000 habitants. C'est une région qui est devenue la première région de production de fraises d'Europe.
Hay cosas. Cosas que son nuestras.
Il y a des choses qui sont les nôtres, et des choses qui sont tellement les nôtres que sans, nous ne serions pas les mêmes. Comme la fraise de Huelva. Ceci est un message de l'association de producteurs et exportateurs de fraises de la province de Huelva. Fraises Huelva.
Alors voilà pour le film institutionnel de cette entreprise Fraises Huelva, qui est l'un des principaux producteurs de fraises d'Europe. Pour ramasser ces fraises, évidemment, il faut de la main-d'œuvre. Et ce sont des tâches très difficiles à automatiser, donc évidemment, on fait appel à des gens. Bonjour Shadia Arab.
Bonjour, monsieur Deller.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe chargé de recherche au CNRS. Vous avez réalisé un travail sur les ouvrières agricoles saisonnières de Huelva. Vous préparez d'ailleurs un livre sur ce thème. Les campagnes de collecte de fraises sont assurées en partie par des travailleuses saisonnières venues, entre autres, du Maroc. Vous avez l'occasion de suivre ces femmes depuis le Maroc jusqu'à l'Espagne, justement, pour comprendre un peu qui elles sont et quelles sont leurs motivations. Vous avez écrit un article intitulé « Les Marocaines à Huelva sous contrat en origine ». Cette expression « contrat en origine », elle provient de l'espagnol « contratos en origen », qui renvoie au fait que ces femmes sont recrutées directement dans leur pays d'origine et très souvent, donc, en l'occurrence, le Maroc. Racontez-nous comment se déroule, puis on va essayer de voir qui sont ces femmes et comment elles sont choisies, mais comment se déroulent ces campagnes de recrutement très concrètement?
Alors, effectivement, c'est un programme qui a été mis en place à partir de la fin des années 2000, à partir de 2008, qui s'appelle le Programme de gestion éthique de l'immigration saisonnière et qui est financé donc par l'Union européenne et qui avait pour objectif de développer à la fois l'immigration légale, mettre en œuvre un système intégral de gestion de flux migratoires entre le Maroc et l'Espagne et prévenir de l'immigration illégale. Donc, la mairie de Cartaya, donc, qui se trouve dans la province de Huelva, en Andalousie, a signé une convention avec le ministère de l'Emploi, avec via l'ANAPEC, qui est l'Agence nationale pour l'emploi et les compétences. C'est l'équivalent du Pôle emploi en France, qui a été véritablement l'outil qui a permis de recruter ces femmes à la source, puisque vous comprenez bien que ce modèle agricole et migratoire fonctionne véritablement parce que ces contrats en origine sont directement faits à la source, c'est-à-dire qu'on recrute des femmes directement au Maroc, on va les chercher, et donc c'est l'ANAPEC avec des médiateurs qui sont à la recherche de femmes veuves ou divorcées avec enfants ou femmes mariées avec l'accord de leur mari pour ensuite les faire venir avec des contrats à durée déterminée de 1 à 3 mois.
Allons pas trop vite, Shadi Arab, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on comprenne effectivement comment est-ce qu'elles sont choisies, comment est-ce qu'elles sont sélectionnées. Parce que vous étiez déjà en train de nous dresser le profil finalement de ces femmes. Elles ne sont pas choisies par hasard. Pourquoi ce profil-là? Expliquez-nous comment on les choisit.
Alors, il y a eu effectivement des conditions qui ont été émises à la fois par l'Espagne et le Maroc. Sachant que l'objectif principal, c'est bien entendu que ces femmes, une fois qu'elles ont terminé, elles doivent retourner dans leur pays d'origine. On est véritablement sur ce qu'on appelle de la migration circulaire. Donc on veut des saisonnières qui viennent travailler. Une fois le travail terminé, on les renvoie chez elles. Donc pour être sûr que ces femmes puissent rentrer chez elles, d'abord on a choisi des femmes. Donc migration clairement sexuée, politique migratoire sexuée. Ensuite, on veut des femmes mariées, veuves ou divorcées, mais la principale condition, c'est qu'elles aient des enfants de moins de 18 ans. Qui est véritablement la condition qui fait que ces femmes rentrent ensuite chez elles. Donc, on a eu beaucoup d'associations, sociétés civiles qui se sont mobilisées pour dénoncer cette double discrimination, à la fois aller chercher des femmes avec enfants qui obligent ces femmes à rentrer chez elles et qui ont des véritables impacts aussi en termes de des structurations de la cellule familiale et qui impactent véritablement leur famille au Maroc.
Vous restez avec nous, Shadi Arab, s'il vous plaît. Je voudrais faire réagir Mathieu Kalam, qui est avec nous ici en plateau. Mathieu Kalam, ces ouvrières agricoles qui, en fait, sont assez éloignées du paysans dont on parlait ensemble tout à l'heure.
Oui, elles peuvent être
issues de paysans que l'activité en réalité.
Voilà, enfin, elles sont peut-être issues du monde paysan et rural marocain. Il faudrait demander exactement quelle est la proportion qui vient du monde rural, quelle est la proportion qui vient du monde urbain. Mais c'est évidemment pas du tout des paysannes en termes de statut. On est bien là en face de prolétariat rural qui a d'une certaine manière toujours existé en agriculture. Le niveau le plus bas étant l'esclavage. Il y a beaucoup de sociétés esclavagistes qui produisaient de l'alimentation avec de l'esclavage. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'esclavage dans ce cas-là, puisque tout de même, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, on est dans un niveau de domination sociale qui est quand même très marqué.
Alors justement, je vais vous poser la question, Shadi Arab. Est-ce que ces femmes sont issues prioritairement du monde rural ou du monde urbain? Et puis j'en glisse peut-être une autre derrière. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on recrute très majoritairement des femmes originaires du Maroc? Est-ce que c'est pour des raisons géographiques ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Parce qu'il fut un temps où c'était beaucoup des femmes venues d'Europe de l'Est, je crois, qui venaient.
Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Alors peut-être pour répondre d'abord à votre première question sur urbain-rural, effectivement, l'Espagne, dans ses conditions, a émis le choix d'avoir des femmes du milieu rural plutôt qu'urbain, avec expérience agricole. Donc, une grande partie d'entre elles viennent de la région, ce qu'on appelle la région du Rhône, le Maroc vert, donc Larache, Ksar El Kebir, Ben Slimane, qui sont déjà des ouvrières agricoles, qui ont déjà une expérience, mais en réalité, elles viennent de partout du Maroc, parce que, par exemple, en 2009, il y avait 17 000 femmes qui venaient du Maroc. Donc, c'était le chiffre le plus important. Elles ont remplacé progressivement, pour venir à votre deuxième question, elles ont remplacé progressivement les Roumaines, qui étaient en 2007 à 20 000, qui sont passées à 3 000, 4 000 les années suivantes, véritablement pour être remplacées par des Marocaines.
Pour quelles raisons?
Je l'explique de deux manières, oui. Tout à fait. Deux arguments, je pense. D'abord, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, qui étaient donc ces femmes qui venaient travailler avec des contrats en origine elles-mêmes, début des années 2000, milieu des années 2000, ces pays sont rentrés dans l'Union européenne. Donc, il y avait une liberté de circulation qui permettait à ces femmes de faire le choix de travailler ailleurs si elles voulaient travailler ailleurs. Donc, l'Espagne a réfléchi à une autre manière de réaliser ses contrats en origine. Et donc, l'a proposé à l'Algérie, par exemple, qui l'a refusé. L'a proposé au Sénégal, mais ça a très mal fonctionné parce qu'il n'y avait pas de conditions émises par le Sénégal. Donc, on avait des jeunes femmes de classe moyenne, urbaine, qui n'avaient jamais travaillé dans le milieu agricole. Et donc, qui ont pris la fuite et qui avaient des réseaux en Espagne, en France, mais parfois aussi ailleurs, et qui ont rejoint de la famille pour partir. Les Marocaines, ça fonctionne véritablement d'abord parce que il y a cette condition préalable émise par le Maroc qui est d'avoir des enfants, donc qui oblige ces femmes à repartir. Mais en plus, ces femmes, donc ça c'est pas dit dans les... dans le choix qui est fait, mais on est aussi face à des femmes qui sont fortement pauvres, précaires socialement, et donc sur place, on est face à une main-d'œuvre qui est relativement docile, malléable, parce qu'elles elles s'enrichissent aussi. Il y a quand même, malgré tout dans tout cela, il y a quand même de l'impact politique, parce que venant de milieux sociaux relativement pauvres, elles s'enrichissent assez fortement. Parfois, elles multiplient leur salaire par 10, ce qui leur permet, une fois de retour chez elles, de pouvoir mieux éduquer leurs enfants, les envoyer, les scolariser, construire des maisons, électrifier des maisons qui ne l'étaient pas.
Oui, et évidemment, elles y trouvent un intérêt économique assez clair. Shadia Arab, et ça sera ma dernière question, on arrive presque au terme de cette émission. Quel regard les Espagnols portent sur ce recrutement de femmes marocaines, alors même qu'en Espagne, le chômage est encore élevé. Alors, il commence à diminuer, mais on est encore au-dessus de 20%. Est-ce qu'il y a des critiques quant à cette utilisation, ce recours d'une main-d'œuvre extérieure pour un travail qui pourrait être effectué par des locaux, après tout?
Alors, depuis 2010, 2011, 2012, le chiffre de 17 000 que je vous ai annoncé tout à l'heure a été draconiquement revu à la baisse par les patronats espagnols, parce qu'effectivement, la crise, le chômage a touché de plein fouet un certain nombre de pays européens, et particulièrement l'Espagne. Donc, il y a eu un retour des Espagnols dans le travail agricole, et donc ces femmes sont aujourd'hui plutôt autour de 2000, 2200, 2300. Donc on fait quand même encore venir des femmes marocaines.
Ah oui, mais bien moins que ce que vous me disiez tout à l'heure, 17 000.
C'est des femmes travailleuses, dociles, et qui acceptent beaucoup de choses, qui ne parlent pas la langue. Donc c'est vrai que tout ça permet de pouvoir avoir une main-d'œuvre qui est relativement malléable et docile. Un exemple, par exemple, les femmes espagnoles ou même roumaines refusent de travailler sans les gants, alors que les marocaines acceptent très facilement parce qu'elles ont peur d'être renvoyées, d'être renvoyées chez elles. Alors vous comprenez bien, elles ont des mains très très abîmées. La fraise, elle est espagnole. Elle est touchée aussi fortement par les pesticides. Donc, dans quelques années, on verra peut-être aussi des maladies se développer chez ces femmes. Donc, voilà. Effectivement, il y a eu un retour à l'emploi de la part des Espagnols.
Je voudrais faire réagir peut-être en guise de conclusion, Mathieu Calame. On arrive au terme de cette émission, peut-être.
Disons que ça a permis de voir la diversité des situations quand on parle d'emploi en agriculture.
Absolument.
Là, on introduit tout à coup la question de l'emploi général en Europe et de la crise politique qui s'ensuit, et qui a comme effet aussi ce refus maintenant de l'immigration. Ce qui a été décrit ressemble assez, de toute façon, à ce qui se faisait dans les années 50, quand la France a voulu développer l'industrie. Elle est allée recruter au Maghreb, en Italie. Il y avait des tests de santé. Et simplement, effectivement, en général, l'immigration ensuite devenait familiale. Là, c'est une vraie question. C'est aussi des questions qui sont posées en termes de co-développement. On pourrait imaginer un système vertueux quand même, dans lequel, parce qu'on comprend bien l'intérêt pour ces femmes de venir travailler et avoir plus de revenus, mais dans lequel les conditions sociales et environnementales, surtout et sanitaires, soient respectées. Après, sur le reste, ça nous ferait aller trop loin.
Ça me permet aussi peut-être d'introduire notre sujet de demain, parce que demain, précisément, nous évoquerons la question de l'emploi et des l'inégalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi, mais ça sera pour demain. Merci beaucoup à Shadia Arab qui était avec nous par téléphone, et un grand merci à vous, Mathieu Calame, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai Comprendre l'agroécologie, qui était paru aux éditions Charles-Léopold Mayer. Un grand merci à vous. L'heure passée de 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
Alors, on parlait hier de romans et de ce que les romans peuvent nous dire sur notre monde contemporain. Vous parliez d'un livre récemment réédité aux belles lettres, La Bibliothèque perdue. Son auteur, Walter Mehring, y reconstitue deux mémoires dans un sous-sol de New York où il avait trouvé exil la bibliothèque paternelle, son seul héritage.
Il s'agit, comme le précise son sous-titre, Autobiographie d'une culture, d'une évocation de la culture européenne faite de mémoire par un exilé. Son père avait bâti pour lui, écrit-il, un rempart de livres, une muraille protectrice faite de milliers de volumes. En homme du XIXe siècle, croyant au progrès, confiant envers la science, humanitaire et quelque peu socialiste, ce père est mort alors qu'il lisait à son fils un passage de la Critique de la raison pure. La culture rationaliste, la grande littérature française en particulier, paraissait à ce juif allemand amoureux de Paris comme une forme de magie blanche grâce à laquelle il croyait avoir fait reculer pour toujours les forces des ténèbres, les superstitions, le fanatisme. Mais en Allemagne, son héritier fut, je cite, « chassé du domaine de la culture à son apogée par des barbares méthodiques, des cannibales en uniforme, des adorateurs de l'idole la plus basse. Les tables de la loi de l'humanisme étaient brisées. » Il lui fallut fuir l'Allemagne où les Hitlériens parvenus au pouvoir recherchaient ce juif subversif. Ayant trouvé refuge à Vienne, il parvint encore à se faire expédier une bonne partie de la bibliothèque paternelle, reconstitua finalement l'ordre de classement, mais là encore, il fut pourchassé par, je cite, « la racaille engagée », citation, sur la place du marché aux Babioles, où vendaient des anges en masse pain, hurlaient des adolescents, jeunesse abandonnée, surexcitée, qui criait des slogans anticapitalistes, anti-juifs, anticléricaux, extraits de ces pamphlets ignobles que toi, mon père, tu enfermais dans ta fameuse armoire au poison. « Demain, disait un de ces pauvres airs, demain nous les pendrons tous, les noirs comme les rouges, et messieurs les juifs avec. Et nous commencerons par ceux qui ont beaucoup de livres. » La culture ne protège pas, elle désigne ceux qui s'y adonnent à la haine des nouveaux barbares.
Quel virus avait donc été introduit dans la culture européenne pour qu'elle engendre le retour de démons qu'on croyait ensevelis depuis longtemps, de pulsions qu'on pensait refoulées par la raison victorieuse, Brice ?
Eh bien, ce livre, Florian, en constitue une récapitulation mélancolique d'une culture et d'une époque en fuite, très comparable évidemment au Monde d'hier de Stefan Zweig ou aux Mémoires de Hongrie de Sándor Márai. Mais c'est aussi une enquête sur cette période décisive qui va d'une guerre mondiale à l'autre, d'août 14 au 8 mai 45. Faut-il situer là le moment de la mauvaise bifurcation. L'entrée en guerre marquait pour Walter Mehring la fin d'une époque, celle de la bohème littéraire qui aurait été, je le cite, la seule république cosmopolite pan-européenne. Quelque chose, oui, s'est brisé, s'est perdu. Mais Mehring ne partageait pas la naïveté paternelle. Il avait lu dans Les dieux ont soif d'Anatole France que la liberté aussi est une jeune déesse dont la terreur révolutionnaire peut faire une idole sanguinaire. Il montre aussi que l'irrationnel avait nourri la littérature européenne bien avant Marinetti et son futurisme qui fit la courte échelle à Mussolini. Et son témoignage est infiniment précieux dans la mesure où il a été un acteur et un témoin de premier plan des avant-gardes berlinoises de l'entre-deux-guerres. Satiriste fameux, auteur de pièces de théâtre, de sketchs, de chansons, il fut très lié au mouvement expressionniste. Toute une galerie de portraits enchanteront d'ailleurs les amateurs de l'histoire culturelle de la République de Weimar, Ernst Toller, auteur phare de la scène théâtrale allemande qui aurait pu devenir, je le cite, le Danton de la Révolution allemande et qui finit par se suicider dans un hôtel de New York en 1939. Erich Mühsam, pilier du café berlinois, assassiné au camp de concentration d'Orianenburg. Hugo Ball, le véritable inventeur du dadaïsme qui considérait la société comme une masse stupide et satisfaite d'elle-même. La poétesse Else Lasker-Schüller et son mari Erwart Walden, animateur de la revue et de la galerie de l'expressionnisme Der Sturm. Elle trouva refuge en Palestine. Lui crut l'avoir trouvé en Union soviétique, mais il devait mourir dans un camp du Goulag. Le peintre Georges Grosch, son ami intime, qu'il introduisit dans le milieu dadaïste. Mais Walter Mehring était aussi un fin connaisseur des littératures françaises, anglaises, italiennes, russes. Les pages consacrées à Rimbaud, à Proust, aux Préraphaélites, au théâtre d'Ibsen, Wedekind, Strindberg sont éblouissantes. La bibliothèque de mon père, mon dernier foyer, est du domaine du passé, comme la crypte des Capucins du dernier des Habsbourg, les tombes des héros de 1848, la bohème et la liberté de cette France à qui je jurais une fidélité éternelle et qui me trahit, comme le Reich de Milan qui les écrasa tous et se détruisit en même temps. Tout cela a disparu, ainsi que disparaîtront rapidement les choses du présent, car nées des livres, elles retourneront dans les livres et deviendront tout aussi incompréhensibles que leurs auteurs. Laissez-moi, en attendant, le temps presse, feuilleter ces pages à rebours dans une vaine recherche du temps perdu. Fin de citation. Car la littérature enregistre mieux que le journal l'esprit d'une époque. Pour en revenir à Tim Parks, romancier anglais vivant en Italie, à sa série d'articles sur l'état du roman récemment paru dans le New York Times, il relate un congrès d'écrivains européens réunis autour de la question « Le Brexit aura-t-il des répercussions dans la littérature européenne ?» Et cette question l'amuse. L'appartenance de la Grande-Bretagne à l'UE a-t-elle eu un quelconque impact dans ce domaine? Et après tout, dit-il, la littérature européenne est née pour relater des carnages, ceux occasionnés par la guerre de Troie, relatés dans l'Iliade. Oui, dans les époques trop tranquilles, elle s'ennuie.
Merci beaucoup Brice Couturier. On retrouve la suite de vos chroniques demain à 11h53 pour l'heure dans un instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.